Bonsoir à tous.
Bonsoir.
C'est le soleil. On a tous bronzé, on est tous. C'est magnifique, ça fait du bien de se reposer. Eh bien, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5 ce soir. Matthieu 5, versets 23 à 25. C'est Jésus qui parle et qui dit : Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Eh oui, voilà une parole de Jésus dont beaucoup ne tiennent pas vraiment compte. Pourtant, l'apôtre Paul, qui vivait dans l'église primitive, lui en tenait tellement compte qu'il a ajouté un point important. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça ne veut pas dire ne vous mettez jamais en colère, parce que quand il y a de quoi se mettre en colère, ben il faut se mettre en colère. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Éphésiens 4, 28. Pour les chrétiens, pour peu, il y en a peu qui font attention à cela, et ils ne se rendent pas compte, mais ils paient les conséquences. Ils paient les conséquences, il leur arrive des trucs pénibles, et ils ne font pas la relation entre leur désobéissance à cet ordre, parce que c'est un ordre, c'est pas un truc, une option comme ça, non. Ils ne font pas la relation entre la désobéissance à cet ordre et leur expérience malheureuse. Ils pensent, voilà, le diable m'attaque, ou c'est la faute à pas de chance, ou c'est un coup du sort, ou c'est les gens sont méchants. Vous allez voir comment les gens sont méchants. Bon, enfin, voilà. Jésus dit, avant de présenter ton offrande à l'autel, et il dit aussi, pendant que tu es en chemin, et l'apôtre Paul, serviteur de Dieu confirmé, ajoute avant que le soleil ne se couche. Moi, je ne pense pas que ça. Je ne crois pas que c'est écrit comme ça par hasard. Je crois que c'est écrit pour qu'on fasse très attention à cela. Ces choses-là ont une importance dans le monde réel de l'esprit. Le monde de l'esprit, c'est le monde réel. Le monde dans lequel nous vivons. Le monde matériel, c'est pas le monde réel. Le monde réel, c'est le monde de l'esprit. Et le monde de l'esprit influence le monde réel. Alors, ces trois images signifient que nous devons chercher à régler les conflits que nous avons avec les autres pendant qu'il est encore temps. Alors, on va regarder un petit peu ça ce soir pour voir ce que cela veut dire, quelques détails. Et pour comprendre ces choses, il nous faut l'esprit de prophétie, c'est-à-dire le même esprit qui a parlé là, disant ces choses sacrées, c'est-à-dire l'esprit de Jésus et l'esprit de Paul. C'est l'esprit de prophétie, c'est-à-dire ce sont des paroles de Dieu, des paroles apportées par des hommes qui étaient envoyés de Dieu. Jésus était un homme, Dieu vivait en lui, il était Dieu, mais il était un homme, d'accord ? Et Paul était un homme en qui Jésus vivait, et c'est par révélation, par prophétie, qu'il a dit, écrit ces choses. Parce que sans le secours de cet esprit, eh bien, nous pouvons avoir des idées humaines, c'est-à-dire limitées sur les choses qu'on vient de lire, et puis alors évidemment, bah, ça limite notre vie, et ça limite l'efficacité de nos actions, de nos entreprises, et de tout. Parce que ça. Il y a des conséquences. Alors le coucher du soleil, ça représente, bon ben c'est sûr, ça représente la fin de la journée, mais je crois que Jésus veut principalement nous dire, voilà, c'est la fin d'un cycle. Il veut nous parler de la fin d'un cycle. Le coucher du soleil représente la fin d'un cycle, la fin du cycle de la journée. Tout est cycle ici-bas, hein, l'Ecclésiaste le dit, tout ici-bas tourne, ça, c'est pourquoi on est tellement fasciné par tout ce qui roule, par tout ce qui tourne, surtout en ce moment, avec l'euro. Hein, je pense que les meilleurs gagnent dimanche, et surtout la France. Donc tout est cycle ici-bas et tout est cycle dans l'univers créé. Avant le coucher du soleil, c'est la période de notre vie physique, de notre vie consciente, de notre vie, voilà. Et après le coucher du soleil, ça représente aussi la période de l'au-delà, c'est-à-dire la fin de notre cycle sur cette terre, la fin de notre vie, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, etc. C'est-à-dire ne meurs pas dans cet état-là. On dit que quand on dort, c'est une petite mort déjà, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les choses au jour le jour. Il faut les régler au jour le jour, c'est certain. Mais ça peut vouloir dire aussi cela. Parce que le soleil couchant, en hébreu, ça se dit Iyam. Iam. Non, je vous prononce peut-être pas juste, mais Iam. Et ce mot signifie aussi bien la mer que l'ouest. Et ce mot signifie la région du ciel où le soleil se couche. Voilà. Donc, dans la tradition orale, on dit qu'un homme qui meurt se couche à l'ouest, qu'il traverse la grande mer et qu'il revient à l'est parce qu'il se lève dans la résurrection. D'accord? Et c'est le cycle. Alors, bien sûr, au premier degré, ce que Jésus dit, c'est que nous devons nous hâter de résoudre nos conflits. On ne doit pas attendre la saint-glinglin. Il n'arrive jamais la saint-glinglin parce que saint-glinglin, ça n'existe pas. Donc on doit hâter cette chose-là, se mettre en règle. Bon, si on sait que quelqu'un a quelque chose qui est contre nous, il faut aller le trouver. Mais il veut aussi nous dire que si nous quittons la terre des vivants en ayant négligé de tenter de nous réconcilier, je dis bien de tenter de nous réconcilier, parce que des fois vous pouvez faire les pieds au mur pour vous réconcilier, mais les personnes ne veulent pas. Ça, ma foi, ils verront ça avec Dieu. Mais si nous avons négligé de tenter de nous réconcilier avec ceux avec qui nous avons des conflits, ben après, il arrive un moment où c'est fini. Il arrive un moment où c'est fini, c'est plus faisable. Cette négligence, elle va s'inscrire sur votre livre de vie comme une dette à payer. Alors j'entends d'ici là les chrétiens crier au secours en disant: oui, mais Jésus a payé notre dette à la croix. Que nenni! Ça, c'est de la simplification de l'évangile évangélique. Quand je dis évangélique, c'est de la simplification de l'évangile. C'est vrai que Jésus a pris et a payé notre dette, mais ça ne signifie pas que vous pouvez vous permettre de ne pas régler les conflits que vous avez. Si vous ne le faites pas, vous vous trompez, parce que Jésus dit que vous devez le faire. D'accord? Vous comptez que Dieu effacera cela, alors que c'est à vous de régler cela ici-bas. Si vous ne prenez pas ça en compte en disant que Jésus règle vos dettes, eh bien vous êtes un gros malhonnête, hein, ou un inconscient, enfin je ne sais pas ce que vous êtes, mais il y a quelque chose qui ne joue pas dans les boyaux de votre tête ou de votre cœur. Mais alors, certains me diront, il y a des gens qui ne voudront jamais faire la paix avec moi. C'est vrai, il y en a, ils sont comme ça, c'est comme ça. Mais vous pouvez au moins essayer, faire l'effort de relancer un peu avec amour, en montrant un amour plein d'abnégation, un amour d'humilité, mais bon. Mais d'autres personnes me diront, il y a des gens avec qui j'étais en conflit, et ils habitent au bout de la terre, maintenant ça devient difficile, et puis j'ai perdu leurs traces, même sur Facebook, j'arrive pas à les retrouver. Enfin, remarquez, quand on veut, on peut quand même, hein. Ou alors, il y a des gens avec qui j'avais des conflits, mais ils sont morts. Ah, alors là, c'est un peu embêtant. Que faire? Eh bien, essayez au moins de chercher les vivants. Réconciliez-vous, tentez de vous réconcilier, ou du moins faites le pas vers une réconciliation. Ça, c'est l'ordre de Jésus. C'est pas moi qui vous embête avec ça. Il y en a qui ont des problèmes dans les familles, des problèmes terribles. Et on se boude pendant des années, et puis voilà qu'un jour, une des personnes meurt, et puis on dit: ah, quand même, il y a des regrets. Il faut faire ça avant le coucher du soleil, avant qu'il y en ait un qui s'en va, qui s'en aille à l'ouest, c'est-à-dire qui meurt. Pour ce qui est des morts, bon, ben c'est trop tard. Vous pouvez juste faire un travail sur votre pensée, c'est-à-dire pour être en paix quand vous pensez à la personne qui vous a fait du tort. Eux, ils n'en sauront rien puisqu'ils sont morts, mais au moins vous, de votre côté, ben, vous aurez pardonné ou vous aurez demandé pardon à Dieu pour le mal que vous leur aurez fait. Bon, ça ne changera rien pour les morts, mais au moins vous, vous serez en ordre. Voilà. Mais il faut penser à ces choses-là. Il faut faire l'analyse de ces choses-là. Faites-le, obéissez, faites-le, libérez votre âme, parce que c'est un poids, et que le soleil ça va empêcher le soleil de se lever de nouveau dans votre vie. Vous allez avoir un nuage noir de ressentiment qui va vous poursuivre, de ténèbres, de haine. Vous allez avoir un nuage noir qui va vous suivre toute votre vie, des ténèbres qui vont vous suivre toute votre vie si vous n'obéissez pas, si vous ne faites pas ce que je vous dis. Et ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et en tant que son ministre, je vous dis de le faire. Chaque fois que le soleil se lève, une nouvelle journée commence. Ça signifie que pour qu'un nouveau cycle de paix se lève pour vous, ben vous devez vous mettre en ordre. Sinon, il n'y aura pas de nouveau cycle de vie pour vous. Vous tournerez en rond dans les ténèbres, dans une espèce d'obscurité, quelque chose qui n'est pas... Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Mais ce n'est pas seulement vous mettre en ordre avec Dieu, mais vous devez vous mettre en ordre avec les autres dans la mesure du possible. Et aussi avec vous-même. Beaucoup de gens ont des conflits avec eux-mêmes. Ils s'autoflagellent, ils se... Arrêtez, mais arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Il faut se mettre en ordre, voilà. Dieu m'a pardonné, je me pardonne. C'est Dieu qui m'a fait comme je suis, bon ben point barre, maintenant je vais faire des progrès, je vais arrêter de me regarder le nombril et puis d'être triste et puis de... Non, je peux progresser, ça c'est aussi un ordre de la Bible. Oui ou non? Si vous ne le faites pas, eh bien le soleil ne se lèvera pas pour vous. Le soleil ne se lèvera pas pour vous. C'est vous figurez que je dis ça, hein. Mais ça veut dire que vous n'aurez pas un nouveau jour, une nouvelle chance de belles journées. C'est-à-dire que vous prolongerez le cycle de ténèbres, le cycle de souffrance, le cycle d'incompréhension, le cycle de ressentiment, de haine, de lourdeur. Alors mes frères et sœurs, il est donné à tous un délai assez long pour se réconcilier avec les autres. Dieu est bon. Dieu est bon. Il sait très bien que des fois c'est pas facile. Des fois c'est pas facile. Mais il vous donne un délai quand même assez long pour vous réconcilier, pour vous accorder avec un adversaire, pour réparer une erreur que vous avez faite ou qu'il a faite. Non, ça, s'accorder avec un adversaire, ça ne veut pas dire retrouver une amitié comme avant. Non, ça signifie trouver un accord, s'accorder. C'est trouver un accord qui puisse le satisfaire et vous satisfaire. Trouver un accord. Compromis, on dit dans le monde. Hein? Quelque chose qui puisse vous satisfaire. De l'intelligence pour ça, c'est vrai que Paul dit, considérez homme frère qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes intelligents parmi vous, ni de femmes d'ailleurs, mais bon, c'est vrai, et il y a besoin d'avoir des gens pour dire les choses afin que chacun prenne conscience, mais pourquoi ça va mal comme ça, mais parce que simplement, là tu as oublié quelque chose. T'as oublié quelque chose, alors tu es dans un cycle de ténèbres, tu t'en sors pas, ben c'est ta faute. Il faut que tu fasses ce que tu dois faire. Souvenez-vous, une fois ce temps écoulé, celui qui n'a pas voulu payer sa dette, ou qui a été négligent au sujet de sa dette, eh bien il subira la loi des causes et des conséquences. On dit toujours la loi des causes et effets. Non, moi je dis la loi des causes et des conséquences. Il y a une raison, voilà pourquoi il y a ça qui t'arrive, ce sont des conséquences. Parce que tout est inscrit, tout laisse une empreinte, tout est inscrit, tout laisse une empreinte. Et une fois le délai passé, il est impossible de s'arranger à l'amiable. Il dit, hein, arrange-toi en chemin, parce que sinon, le juge va être averti, et puis après, ben, tu vas finir en prison. Arrange-toi en chemin avec ton adversaire, tu as du temps pour le faire, fais-le. Quand on n'a pas mis ses affaires en ordre avant le coucher du soleil, c'est-à-dire, un, avant la fin du cycle de la journée, eh bien, on retrouvera notre problème la journée suivante. Ben voilà, c'est un nouveau cycle qui commence avec ben, les mêmes problèmes, même des fois amplifiés. Et deux, si on ne met pas nos affaires en ordre avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant de quitter la Terre, avant de mourir, eh bien, on retrouvera les mêmes difficultés dans l'au-delà. Vous allez me dire, ah non, Jésus m'a sauvé, Jésus a payé ma dette, il est bon, il est merveilleux, il a jeté mon péché aussi loin, l'Orient est éloigné de l'Occident, aussi loin, il a jeté mon péché dans la mer de l'oubli. Oui, oui, tout ça, c'est des versets qui vous arrangent, mais moi, je vais vous en citer d'autres. Matthieu 5, 26, où il dit, tu ne sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. C'est-à-dire que tu vas être dans l'au-delà, tu vas être placé, même en tant que chrétien, dans le mauvais côté du séjour des morts, et tu vas être puni. Jésus n'a pas payé la dette qu'il te dit de payer toi-même. C'est clair. Ça, c'est des fables qu'on raconte dans les églises en disant « Jésus a payé toutes vos dettes ». Alors les gens se sentent complètement déculpabilisés, et puis... ils disent, oui, mais c'est les autres, ils m'en veulent pour des choses que Jésus a pardonnées. Attends, c'est quoi ce cirque? C'est facile, ça. On fait toutes les vacheries qu'on veut, n'importe comment, puis après, ben, c'est aux autres de pardonner s'ils ne pardonnent pas ceux qui pêchent. Non, mais c'est quoi ce cirque? Ben, c'est le résultat d'un mauvais enseignement. Tu vas prendre la Sainte Cène, et tout d'un coup, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ben, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis tu reviens, puis tu prends la Sainte Cène. Et si tu ne le fais pas, ben, tu vas payer cher, ici-bas déjà, pour t'apprendre à vivre, et puis ensuite, si tu continues, ben, dans l'au-delà aussi, tu vas payer. Donc, mais non, Michel, c'est un faux évangile, Jésus a payé ma dette à la croix. On t'a raconté ça dans les églises, que Jésus a payé toute ta dette, ben c'est faux. Jésus dit clairement que si tu connais la vérité, si tu connais la volonté de ton Père Céleste, et que sa volonté de te réconcilier avec ton frère, tu ne la fais pas, eh bien, si tu négliges cette volonté-là, quand Jésus reviendra, quand ton soleil se couchera, quand tu mourras, tu seras battu d'un grand nombre de coups. Tu t'attends à avoir des anges qui viendront te chercher, ben tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Tu vas te prendre des coups dans l'au-delà. Luc 12, 47. Alors ça, on ne vous le prêche pas dans les églises. Hein? Ah ben non, parce que si les pasteurs se mettent à prêcher ça, eh ben les gens vont les aimer moins. Et puis ils ne donneront plus leur dîme. Ils auront la donnée ailleurs. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre avec tous ceux qui viennent écouter sur Internet? Il n'y a pas d'histoire de dîme. Hein. Enfin, si vous voulez la donner, vous êtes les bienvenus. Ce sera pour l'œuvre de Dieu. Mais moi, je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, quand Jésus va venir te chercher, tu vas prendre des coups. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu... Dans le texte de Luc 12, là, il est dit que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, que tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu prendras un petit nombre de coups. Mais si tu sais ce qu'il faut faire et que tu ne le fais pas, tu vas en prendre un grand nombre. Un grand nombre, ça peut être beaucoup. Hein. Je ne sais pas, moi, mais ceux qui sont morts au 15e siècle, je ne sais pas, ils doivent payer jusqu'au dernier centime. C'est-à-dire, il faut que la dette soit réglée. Et la loi de Dieu, c'est terrible. Hein, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dans le séjour des morts, il n'y a plus d'œil, il n'y a plus de dents, mais il faudra bien qu'ils payent d'une manière ou d'une autre. Ils seront punis. Et tu seras puni sévèrement, et Dieu te fera partager le sort des infidèles. Tu ne me crois pas. Je sens d'ici que tu ne me crois pas. Luc 12, 47, on va le lire. Alors, le serviteur... Est-ce que c'est verset 40, on va dire, je vais dire au 40, 45. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qu'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attendra pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ah bon, on ne connaît pas l'heure? Je croyais qu'on connaissait l'heure, monsieur Gnierski. On ne connaît pas l'heure? Non, on ne connaît pas l'heure. Eh bien, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Il fera partager le sort des infidèles. Ça veut dire quoi? Ben, il le mettra dans le mauvais côté du séjour des morts. Pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Mais qui dit, ouais, bon, ben là, bof, bof, bof. Vous voyez? Eh bien, il le mettra au nombre des infidèles. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et je suis son serviteur et je vous dis la vérité. Je vous dis que vous serez punis sévèrement. Et Dieu vous fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Ouh là là, Michel, alors, ben oui, ben moi je vous prêche pas un évangile édulcoré. Je vous dis la vérité parce que c'est important. Tous les chrétiens disent Jésus revient, c'est formidable, Jésus revient. Oui, mais bon, la plupart prendront des coups. Ils se réjouissent. Mais ils vont prendre des coups. Par exemple, tu dois de l'argent à tes frères. C'est un exemple, hein. Je sais bien que c'est pas le cas ici. Mais tu dois, supposons, tu dois de l'argent à tes frères. Tu as mangé pendant des mois et des mois sans rien payer. Pourtant, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais bon, tes frères ont été tellement gentils qu'ils ont payé à ta place. Tu leur dois cet argent. Tu sais que tu leur dois cet argent. Mais tu penses que, tu t'autorises à penser que, tes frères et sœurs n'ont qu'à t'en faire cadeau. Parce qu'ils doivent être généreux. Parce que la Bible dit qu'il faut avoir de l'amour et qu'il faut être généreux. Tes frères et sœurs doivent t'aimer. Et ils doivent te remettre ta dette. Ça, c'est, ça prouvera qu'ils sont spirituels. Si tu penses ça, ben tu as le droit de penser ça, mais c'est faux. Tu peux penser aussi que s'ils te demandent de payer ta dette, ils sont comme le méchant de Matthieu 18, 28. Vous vous rappelez le méchant, hein? C'est un bonhomme qui avait une dette, et puis il va pleurer devant l'homme à qui il doit de l'argent. L'homme lui dit, bon, ben écoute, je te fais grâce de ta dette, allez, on oublie. Et puis le bonhomme, tout content, il sort, il croise un type qui lui devait 2 balles. Il le prend à la gorge, puis il le traîne au tribunal. Enfin, c'est une véritable ordure. Alors, les gens vont vers le monsieur très riche. Ils disent, tu viens de lui remettre sa dette. Et puis, voilà ce qu'il fait avec quelqu'un qui lui devait 2 balles. C'est un méchant. Hein, il exige qu'on paye la dette. Tu te rends compte, il exige. Alors que toi, tu as remis la dette. Alors, si tu dois de l'argent, peut-être tu penses, oui, mais celui à qui je dois de l'argent, Jésus, lui a remis sa dette, il doit aussi remettre la mienne. Hein? Puisque Jésus a payé sa dette, alors il doit aussi accepter que je ne paye pas la mienne, et puis que tout est en ordre comme ça. Sinon, ben, s'il ne fait pas ça, ben, il est comme le méchant de la parabole de Matthieu 18, 28. Mais vous avez des gens tordus qui pensent comme ça. Hein? Finalement, tu penses que tu n'as pas à payer ce que tu dois et tu te justifies en accusant ceux qui t'ont nourri, en t'avançant l'argent et tu te justifies avec la Bible. Eh bien, je te le dis, tu es un tordu ou une tordue. Tu finiras par payer ici-bas déjà et dans l'au-delà aussi. C'est comme ça. Je suis obligé de le dire. Je dois vous le dire. Eh oui, Jésus n'a pas payé toutes tes dettes. Il exige que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Ah, mais que veut-il? Eh bien, lisons Romains, chapitre 13, verset 8. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Non, mais Michel, ce n'est pas le verset en entier. Non, ce n'est pas le verset en entier, c'est vrai. Mais c'est quand même écrit, ne devez rien à personne. Ce que vous devez, c'est aimer. Parce que quand tu aimes, tu accomplis toute la loi. Michel, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ah oui, alors, bon, t'as raison. On va relire le verset en entier, alors. Hein? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Ah, c'est plus Michel Janton qui le dit, c'est la Bible, alors ça doit être vrai. Quand c'est Michel Janton qui le dit, c'est faux, mais quand c'est la Bible qui le dit, c'est vrai. Foutu de bête. Vous ne pouvez pas simplement croire un serviteur de Dieu quand il vous parle. Il faut toujours que vous ayez le nez plongé dans la Bible pour avoir l'assurance que le serviteur de Dieu vous dit la vérité. C'est quand même terrible d'être comme ça. L'apôtre Paul, il n'avait pas le Nouveau Testament pour prouver que ce qu'il disait, c'était vrai. Les chrétiens le croyaient parce que c'était un homme qui était confirmé par Dieu. Amen. Tu ne veux pas accomplir la loi parce que tu penses être sous la grâce? Eh ben, t'es une dingo. T'es un dingo, t'es une vierge folle, voilà. T'as rien compris. T'as rien compris. La loi est ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Vous savez, c'est comme ça que Satan a trompé Ève en manipulant ce que Dieu avait dit. Et de même, les faux ouins, tous ces faux prédicateurs, manipulent ce que Dieu dit pour faire croire à des mensonges. Le pire, c'est qu'ils ne le font pas consciemment. Ils sont sûrs d'être dans la vérité. Ils sont tellement aveuglés, mais ça devient grave. Notre époque, c'est vraiment une époque grave. Hein. Un disciple de Jésus doit payer ses dettes. Un disciple de Jésus doit se réconcilier. Un disciple de Jésus doit faire beaucoup de choses parce qu'il est disciple de Jésus. Quand on est disciple de Jésus, on obéit à Jésus. Jésus est notre roi, nous sommes ses sujets. Ah non, moi je ne suis pas un sujet, je suis son épouse. Ah ben si t'es son épouse, encore à plus forte raison. Parce que pour infidélité, une épouse peut être rejetée. Mais Michel, l'infidélité c'est sexuel? Non, l'infidélité c'est pas que sexuel. D'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est le même prix, hein? C'est comme ça. Tu ne me crois pas? Tant pis pour toi. Tu fais partie des clubs de ceux qui ignorent ou veulent ignorer que les pensées, les sentiments et les actes qui ne sont pas inspirés par l'amour selon Dieu et la sagesse selon Dieu produisent des troubles qui se prolongent bien au-delà de la vie terrestre. Ça se prolonge. Je vais vous apprendre quelque chose, mes frères et sœurs. Vous savez que ça va de plus en plus mal. On se demande pourquoi. On met ça sous le compte de l'éducation nationale. Bon, c'est pas tout à fait faux, hein. C'est pas tout à fait faux quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait. On se dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Mais enfin, bon, il y a quand même de braves personnes là-dedans, malgré tout. Comme dirait Philippe. On met ça sur la faute des parents. Mais pourquoi les parents sont-ils comme ça aujourd'hui? Je veux dire, les gens qui sont morts, ceux qui sont morts là, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les voyez plus, eh ben, leurs pensées, leurs sentiments, leurs actes égoïstes et malveillants qu'ils n'ont pas pris la peine de réparer contribuent à alimenter le courant destructeur qui circule dans l'espace. Eh oui. Tout cela empoisonne l'atmosphère psychique de la Terre et de ses habitants. Prenez le pire des pires. Prenez Hitler, Adolf. Il a beau être mort. Ses pensées, ses actes continuent à empoisonner le monde. Oui ou non ? Oh mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur le net, prenez conscience que les pensées, les sentiments et les actes ne produisent pas uniquement des effets sur des personnes déterminées à un moment donné ou dans un lieu précis. Non. Tout est lié. Il n'y a rien qui se perd. Dans le monde invisible, cela provoque des forces bénéfiques ou maléfiques. Ça continue à vivre. Donc, en chemin, sur la terre, avant que la journée soit finie, ou avant de quitter cette terre, faites l'effort de rétablir la paix autour de vous. Au moins essayez. Amen. Jésus, merci de m'avoir permis de mettre ces points sur les i, afin que chacun sache où il en est, selon ta parole qui est très exigeante. C'est vrai que ceux qui te connaissaient, qui t'ont vu, ont dit, nous savons que tu es dur, et nous savons que tu n'as pas dit, mais non, je ne suis pas dur. C'est vrai que tu es exigeant, Seigneur, et tu as bien raison de l'être, parce que nous sommes vraiment des êtres qui sont très très vite corrompus. Sans le secours de ton esprit, nous sommes très très vite déviants. Je te prie, mon Dieu, que tu nous gardes fidèles et fermes. Merci, Jésus. Amen.
Amen.
Amen.